Les nuits de France Culture.
Nuit, Youssef Chahine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture pour une nuit consacrée à Youssef Chahine. 11 ans après sa disparition, saisissant l'occasion de la rétrospective que lui consacre jusqu'au 28 juillet la Cinémathèque française, nous avons voulu proposer à nos auditeurs, à travers les archives qu'en conserve l'INA, d'écouter le temps d'une nuit la parole de Youssef Chahine. Pour inciter chacun, puisque l'opportunité se présente, à revoir ou découvrir ses films, dont certains comptent parmi les plus importants et les plus beaux du cinéma, non seulement égyptien, non seulement arabe, mais du cinéma tout court. Parce que l'ensemble de son cinéma est une invitation, plus que jamais urgente ici et ailleurs, à nous interroger sur le présent et l'avenir de notre ici et de nos ailleurs. Et puis, cette nuit, tout simplement peut-être, pour le plaisir de réentendre cette voix, libre et passionnée de grand fumeur oriental et charmeur. En compagnie de Marianne Coury, sa nièce, réalisatrice et productrice, notamment pour une bonne part des films de Chahine, et de Thierry Jousse, réalisateur, critique, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et toujours homme de radio sur France Musique, nous tenterons de voir comment l'œuvre cinématographique de plus d'un demi-siècle de Youssef Chahine a regardé et raconté l'Égypte et participé de l'histoire de ce pays depuis l'avènement de la République. Avec eux, nous verrons ce qu'aura eu de précieux, bien au-delà de l'Égypte et ici particulièrement, cette voix d'alexandrin cosmopolite et polyglotte, amoureux de l'amour, de la danse et du chant, amoureux de la vérité, toujours bonne à dire quand cela pouvait chatouiller les bonnes consciences. Marianne Coury, Thierry Jousse, bonsoir.
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 Qu'est-ce qui fait de Youssef Chahine un cinéaste important et peut-être le plus important du monde arabe, Marianne Coury?
Je vais commencer par dire « Yalla Bina », ça veut dire « Allons-y », parce qu'on est là pour la nuit. Je pense que Youssef Chahine, un point très important, c'est qu'il a pu, en fait, peut-être résister pendant 60 ans dans cette carrière de réalisateur en Égypte. Okay, il a fait des petits voyages au Liban, il a fait des coproductions, mais il a su... travailler à partir de l'Égypte. Et je pense que sa carrière a été presque de 60 ans, parce qu'il a commencé en 1950, et jusqu'au dernier jour, il travaillait encore, et comme vous avez mentionné maintenant, il est décédé en 2008. Donc c'est presque
11 ans.
58 ans. Mmh. Oui, bien sûr, oui. Et 58 ans de carrière. Donc, et je pense que, à part le fait qu'il soit resté très longtemps, il a touché à beaucoup de genres. C'est vrai qu'à partir du premier film, Baba Amine, on sent le cinéma de Youssef Chahine, même si on voit le film passer comme ça à la télé, il y a un cadre qui est très 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 chahinien et on sait que c'est un film de lui. Donc le fait qu'il ait touché à tous les genres, mais bien sûr qu'il y avait des choses qui étaient très particulières au cinéma de Chahine dans tous les films, s'il faisait des films personnels ou des films épiques ou des films sur l'histoire et tout ça, il y avait toujours un côté très personnel dans les films aussi, et je pense que c'est ça ce qui a fait que son cinéma est très fort, parce que c'est en même temps très personnel, mais en même temps il joue en fait avec ce langage cinématographique qu'il maîtrise très très bien.
Thierry Jousse.
J'irais un peu dans le même sens que ce que disait Marianne Coury. Je pense que ce qui fait la force et la pérennité, on pourrait dire, de Youssef Chahine, c'est qu'il incarne le cinéma lui tout seul, d'une certaine manière. Même, je dirais, au-delà de l'Égypte, au-delà du monde arabe. Je vois pas d'autres cinéastes de cette génération-là, en tout cas, qui aient la même multiplicité, la même capacité d'accueil de tout le cinéma, parce que finalement, ses influences sont assez multiples. Il est influencé par le cinéma américain, on en reparlera peut-être, parce qu'il a été faire ses études études aux États-Unis. On voyait, je pense, aussi des films américains en Égypte. À certains moments, il est influencé par le cinéma russe. Il s'inscrit aussi dans l'histoire du cinéma égyptien, la comédie musicale, le mélodrame, le film épique, puis le cinéma moderne qui le rattrape. Enfin bon, on va en reparler, je pense. Et tout ça fait une espèce de confluence de plein de choses, d'une multitude de choses, et en même temps que lui reprend d'une manière extrêmement personnelle, parce que c'est quand même quelqu'un qui, même, bon, on sait qu'il a fait des films à la première personne, là aussi c'est quelque chose,
on
j'anticipe
oui.
un peu, mais enfin disons, on va dire que je trouve que, j'ai pas revu tous ces films malheureusement pour à l'occasion de cette nuit, mais je trouve qu'il y a toujours, on a l'impression que c'est lui qui parle quand même, quoi, que c'est le cinéma de Youssef Chahine et que c'est pas un cinéaste qui est au service des studios, même quand il fait des films de genre et c'est fréquent, il y a quelque chose qui est très personnel. Donc je pense que c'est, et puis je pense aussi, bon alors après ça on en reparlera aussi j'imagine, mais peut-être que c'était aussi on pourrait dire un fin politique du point de vue aussi la stratégique de la production. Il a aussi su traverser, non pas du tout par opportunisme, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je pense par
FIN, c'est ça?
Oui, FIN, oui, c'est ça.
Non,
FIN, absolument. Non, mais on sent qu'il joue avec les pouvoirs, qu'il joue avec la censure, qu'il y a quelque chose comme ça, et il arrive à en faire quelque chose, toujours, là, encore une fois, de très très personnel. Donc, de fait, c'est une carrière complètement unique en son genre.
Oui, je pense que la censure ne l'a jamais empêché de faire un film. Il a toujours su comment faire passer les films, en fait. C'est vrai qu'à la fin de sa carrière, il avait une autorité, ils n'osaient plus lui dire « ne fais plus » et tout ça. Mais de toute façon, il a toujours su faire passer des choses. Et ça n'a jamais été un prétexte de ne pas faire le film, parce que souvent, on le dit maintenant, parce qu'on ne vit pas dans les meilleurs moments de la liberté d'expression et tout ça, mais souvent, on dit « on ne fait pas parce qu'on n'arrive pas ». Mais c'était jamais son cas, lui. Il trouvait toujours les moyens
de faire passer ses idées. Près de 11 ans après sa disparition, que représente Chahine en Égypte aujourd'hui et dans les autres pays arabes pour le public, pour les cinéastes en herbe? Quelle influence, quel prestige conserve-t-il, Marianne Khoury?
Nous avons eu l'occasion cette année de faire une rétrospective de ses films. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on y travaille. Parce que juste après sa disparition, en fait, on est venu ici en France, mon frère et moi, et on a été à la Cinémathèque et on leur a dit, on a les archives de Chahine, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, emmenez-les. Donc voilà, ils ont fait beaucoup de voyages et puis finalement, on a amené pas mal d'archives qui sont les archives non-films ici. Et parallèlement à ça, on a fait des restaurations de films. Donc aujourd'hui, il y a eu 21 films qui ont été restaurés entre la France, l'Égypte. Et l'Italie, Bologne, pour Saladin. Et donc, avant de faire la première en France, on a fait un événement assez important en Égypte, en septembre, avec les 21 films. Et dans ce nouveau cinéma qui s'appelle Zawiya, qui est géré par les jeunes, enfin c'est les jeunes de la famille aussi, mais voilà. Et je ne vous dis pas le nombre. Nous, on a été vraiment... on ne s'attendait pas à avoir tellement de jeunes faire la queue dans la rue pour aller voir les films de Chahine. Donc ça a été une redécouverte. C'est-à-dire ces jeunes-là n'ont jamais vu les films de Chahine au cinéma. Parce que ou bien ils les ont vus sur le petit écran, ou bien ils ont entendu parler de lui, mais ils n'ont jamais vu ces films. Et c'était très drôle parce qu'il y avait des jeunes qui disaient « Mais moi, à chaque film, je sens qu'il me parle. » Donc c'était vraiment très très intéressant comme phénomène que les films soient... Et pour moi d'ailleurs aussi... Pour moi, d'ailleurs, j'ai revisité ces films parce que je n'avais pas vu tous ces films. Il y a des films comme, par exemple, La Dame du Train, le Fils du Nil, enfin, des films que j'avais vus peut-être quand j'étais très, très jeune, je ne me rappelais absolument de rien. Donc, revoir ces films, c'était vraiment très intéressant pour moi aussi de redécouvrir, et pas seulement sur un seul film, mais de redécouvrir l'œuvre. C'est complètement différent.
Tout au long de cette nuit, nous entendrons Youssef Chahine s'exprimer dans des entretiens avec des journalistes, parler avec ses amis. Nous l'entendrons rire, nous l'entendrons se mettre en colère. Youssef Chahine, Joe, tel qu'il voulait qu'on l'appelle, c'était peut-être avant tout une personnalité, un caractère très attachant pour tout le monde. Thierry Jousse, vous avez dirigé un numéro spécial des Cahiers du cinéma en 1996, un numéro spécial qui était consacré à Youssef Chahine. Ça a été pour vous l'occasion de le rencontrer au Caire. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre, qui n'était peut-être d'ailleurs pas la première ni la dernière? Quel souvenir gardez-vous de Youssef Chahine?
Ouais, je garde le souvenir d'un homme extrêmement chaleureux, intelligent, rusé, je dirais aussi. Et voilà, c'est avec ce côté oriental que moi je n'ai pas, mais enfin auquel je m'adapte très vite finalement. C'était des rencontres, parce que c'est effectivement, vous l'avez signalé, ça n'a pas été la seule rencontre ni la première avec Youssef Chahine, mais c'était la plus importante. D'abord parce que c'est la seule où je suis allé le voir au Caire et où j'ai rencontré Marianne Coury et son frère Gabriel Coury aussi. Qui animait quand même la boîte de production, les bureaux de façon très active. Mais je l'avais rencontré. Alors, en fait, je peux vous raconter la première image que j'ai physique, parce que j'ai vu des films de Chahine avant, mais la première fois que je l'ai vu, j'étais avec Serge Toubiana, qui à l'époque était rédacteur en chef des Cahiers. Moi, je n'étais que son adjoint. Et on était à Cannes, je crois que ça devait être en 1990. C'était l'année où Alexandrie encore et toujours a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. À cette époque, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais on croisait facilement des gens dans les rues de Cannes, et tout d'un coup, on voit Youssef Chahine sur l'autre côté du trottoir, et il arrive vers nous. Bon, moi, je le connaissais pas du tout, évidemment, de nom. Et, bon, Serge Toubiana le connaissait. Enfin, bon. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui était pas du tout, on rencontre un grand cinéaste, une révérence et tout. C'était, une rencontre extrêmement chaleureuse, très directe, avec quelqu'un qui parlait, qui tutoyait très vite, évidemment. Et je me suis senti assez à l'aise, alors que j'étais assez impressionné quand même avec lui, parce que voilà, bon, après les choses se sont poursuivies, parce que il y avait un compagnonnage. Là, je peux faire un petit, puisque vous parliez des Cahiers du cinéma, je pense qu'à partir, disons, des années 80, il y a eu un compagnonnage très très régulier des Cahiers avec Chahine. Chaque film était l'occasion, enfin presque chaque film était l'occasion d'une rencontre. Il y avait un suivi,
un dialogue, une conversation
faisait, qui était important, et qui a culminé de fait avec ce numéro spécial dont il faut quand même rappeler qu'il a été fait à l'occasion de, je crois, la première grande rétrospective Chahine, qui était à Locarno, en 96, et qui avait été d'ailleurs reprise, il me semble, à la Cinémathèque française à l'automne suivant. Ouais. Et j'avais donc, il y avait eu cette idée de faire un numéro spécial qui était un supplément de la revue à l'époque, et je me suis trouvé à aller 4 jours au Caire grâce à ça. Et donc j'ai découvert le souvenir que je garde, évidemment, c'est les moments d'entretien avec lui qu'on avait fait, un très long entretien qui a été publié, mais c'est aussi des moments assez parallèles, on pourrait dire, qui sont plutôt la popularité de Chahine dans la rue au Caire m'avait frappé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui sortait dans la rue, il y avait immédiatement des gens qui venaient lui parler ou qui le reconnaissaient. Ça, c'était clair et net. C'était pas simplement un cinéaste, je pense que c'était aussi un homme public. Bon, il était connu comme acteur, il était connu comme intervenant à la télévision. Enfin, on voyait Chahine, c'était Chahine, me semble-t-il, au Caire. Et puis je me souviens de son emploi du temps, qui se levait très très tôt, qui redormait après autour de 10-11 heures, puis reprenait à travailler vers 16 heures, puis voilà, il y avait le moment de la soirée où il m'avait invité à dîner chez lui avec sa femme, Colette, et c'était, voilà, j'ai pénétré, non seulement dans son cinéma que je connaissais de façon très fragmentaire, enfin, j'avais vu certains films, mais j'ai découvert que c'était beaucoup plus vaste que ce que je pensais. D'abord, c'était quantitativement énorme, et puis il y avait des films, voilà, très variés, notamment ceux des années 50, qu'on connaissait très peu en France, hein, à part Gare Centrale, il faut bien le reconnaître, qu'il avait découvert Omar Sharif, qu'il y avait toute une, ces sensations au fond, dont je garde un grand souvenir, autant que du contenu lui-même, qui par ailleurs, est dans ce numéro spécial des Cahiers.
Marianne Coury, Youssef Chahine, c'était donc votre oncle. Vous l'avez d'abord connu en privé, en famille, quand vous étiez enfant.
Pas vraiment.
Ah bon? Avant, plus tard, de travailler avec lui. Ouais. Comment vous dessineriez-vous en quelques mots, ce qui est sans doute impossible, votre oncle Youssef Chahine?
Ouais, c'est la question. Non, je vous dis pas vraiment, parce que moi, j'ai vraiment commencé à le connaître quand j'ai commencé à travailler avec lui, parce que sa vie et le cinéma sont deux choses indissociables. C'est-à-dire que la famille, c'était très très important pour lui, mais c'était pas quelqu'un qui, enfin, on allait passer faire n'importe quoi avec lui, donc comme ça, comme un oncle habituel. Donc c'était une relation très très particulière, et bien sûr il avait avec ma maman, qui était sa sœur, une relation très très particulière, très fusionnelle, et quand j'ai commencé en fait à travailler avec lui, c'était les années 80. Il m'avait sauvé d'une situation personnelle un peu difficile, et puis je me suis lancée avec lui, et pendant 10 ans je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ça ce que je veux continuer à faire? Parce que quand on est avec lui, on est complètement
100% avec lui,
100% dans le travail. bien que je n'étais pas très proche du côté créatif avec lui. C'est-à-dire, comme j'ai fait des études d'économie, sciences politiques, donc c'était un peu sensible, c'était un peu délicat de s'approcher trop du côté créatif avec lui. Donc, moi, il m'a dit, en 82, sur le Adieu Bonaparte, il m'a dit, tu es productrice exécutive. Je lui ai dit, mais comment, je n'ai jamais été sur un plateau. Non, tu es productrice exécutive. Et là, depuis ce jour-là, j'étais tous les jours en France, je prenais l'avion et c'était un projet énorme, la première coproduction avec la France, des géants de comédiens français, Patrice Chéreau, Michel Piccoli. Et il y avait 120 personnes qui travaillaient, on faisait des ateliers. On avait construit tout un monde très artisanal dans ce studio Galel qu'il avait loué pour faire ses films, en fait. Donc, c'était énorme. Donc, Chahine, c'est quelqu'un de très, très tendre, mais en même temps de très exigeant. Donc, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. C'est très fort. Donc, pour moi, bien sûr, j'ai des moments très personnels avec lui. Et comme je travaillais avec lui, donc pendant 10 ans, j'ai eu le privilège de travailler seulement avec lui. Et ensuite, mon frère est venu 10 ans plus tard. Donc, pendant ces 10 ans...
Il a pris le relais.
Il a pris, heureusement. J'ai pu avoir mes enfants, sinon ça aurait été impossible.
Youssef Chahine est né en 1926 à Alexandrie. Il y a grandi, il a passé son enfance et sa jeunesse dans cette ville. Youssef Chahine, cinéaste égyptien, mais ne serait-il pas plus juste de dire cinéaste alexandrin, comme Pagnol était provençal et comme Woody Allen est new-yorkais? Que devait le caractère de Youssef Chahine à Alexandrie, Marianne Coury?
Ouais, c'est sûr qu'Alexandrie a marqué toute sa vie. C'est-à-dire qu'Alexandrie, d'ailleurs, les années... Enfin, quand il est né, les années 26, tout ça, c'était très, très, très cosmopolite. Maintenant, ça a changé. Je viens de passer à côté de l'immeuble là où ils habitaient. Ils l'ont fait tomber complètement parce qu'ils vont construire des tours. Donc, le visage d'Alexandrie est en train de changer. Mais là, cette Alexandrie-là, c'était vraiment une Alexandrie excessivement cosmopolite où les gens apprenaient les langues à l'école. Ma grand-mère, qui est sa maman, elle parlait 7 langues. Elle n'avait jamais été à l'école. Donc, elle avait tout appris dans la rue.
Dans la rue.
Et c'était une grecque d'Alexandrie. Elle est décédée, elle n'a jamais été en Grèce. Mais c'était ça. Donc, il y avait des gens qu'elle côtoyait qui étaient des Grecs, des Maltais, je ne sais pas, voilà. Et d'autres, elle les appelait en fait les Arabes. Les autres, les Égyptiens, c'était les Arabes. Mais elle aimait beaucoup les Arabes. Elle disait qu'ils étaient beaucoup plus sympathiques.
Évidemment, j'ai pas connu Alexandrie, mais j'ai quand même l'impression, pour avoir parlé avec lui, puis avoir lu des choses, que c'est aussi de là, de ce berceau-là, où coexistaient quand même des communautés qui aujourd'hui sont un peu plus antagonistes, on va dire, c'est-à-dire des chrétiens, des musulmans, des juifs. Et c'est de là que, quand même, me semble-t-il, procède aussi le cinéma de Chahine, très multiple, très métissé, très capable d'aller.
Un cinéma sans frontières,
presque. Voilà. J'ai l'impression que ça a un lien aussi avec cette période-là et avec cette ville-là, quoi.
Et la mer, peut-être, cette ouverture avec la mer,
sûrement.
Les gens qui passent, et cette ouverture, c'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui était très tolérant avec les autres, et avec vraiment la différence, c'est pas des grands mots théoriques, mais non, il savait gérer ça, il s'adaptait à plein de choses. D'ailleurs, comme vous aviez mentionné, il a fait ses études aux États-Unis, ensuite il y a sa femme qui est française d'Alexandrie, donc d'ailleurs ses scénarios, ses découpages, il les écrit en 3 langues. Il fait l'anglais pour la technique.
Côté technique, oui.
Ouais, il fait l'arabe pour les dialogues. Et quand il fait des descriptions et tout ça, et les émotions, c'est en français. Donc, c'est quelqu'un qui jonglait avec ses langues tout le temps et avec des gens. Et je pense que le secret de Chahine, c'est qu'il aimait les gens simples. Donc, et peut-être que ça vient d'Alexandrie, parce qu'il était beaucoup dans la rue.
Le sixième jour s'ouvre sur une dédicace à Gene Kelly pour avoir rempli de joie notre jeunesse. On sait ce qu'était l'amour de Chahine pour la comédie musicale, mais plus largement, de quel cinéma, de quel film s'est-il nourri dans son enfance, dans sa jeunesse? Que voyait-on sur les écrans d'Alexandrie dans les années 30-40?
Sûrement les grands films... Du Vivier, est-ce qu'il a vu ça en
Du Vivier, il en parlait beaucoup, en tout cas.
Oui, parce que je pense que c'était sa référence. Il voyait le film plusieurs fois.
Et c'était d'ailleurs un film de Du Vivier américain, d'ailleurs, dont il parlait. Je ne me souviens plus du titre, mais la référence venait pas mal de là.
Donc il allait au cinéma avec sa grand-mère, apparemment, et il n'y avait pas beaucoup d'argent pour aller au cinéma. Donc c'était vraiment la sortie très particulière, mais il a beaucoup été au cinéma à Alexandrie dans sa jeunesse.
Et j'ai l'impression que c'était beaucoup de films américains. Beaucoup
de films américains. Des grands films américains.
Après avoir passé donc 2 ans aux États-Unis à étudier l'art dramatique, Shine commence sa carrière de réalisateur très jeune, en 1950, avec son premier long métrage à 24 ans. Le cinéma égyptien a donc déjà une longue histoire derrière lui. Peut-on rappeler ce qu'était l'industrie cinématographique en Égypte avant 1950, Marianne Khoury?
Dans les grandes lignes. C'est-à-dire que peut-être que moi, je peux parler de 2 lignes. Enfin, comme je fais ce film-là sur les passionnés du cinéma, qui sont les femmes dans le cinéma égyptien, et je ne sais pas si vous le savez, mais apparemment c'est les femmes qui ont commencé le cinéma en Égypte, qui ont commencé au cinéma en Égypte.
Shine le disait d'ailleurs
aussi.
Oui,
parce que les femmes l'ont beaucoup aidé aussi dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a eu Marie Queenie, il y a eu Assia. Qui ont été de grandes productrices. Assia qui lui a produit bien après Saladin. Et Marie Queenie, c'était le fils du Nil. Donc c'était son deuxième film. Elle a cru en lui quand il venait en short. C'est lui qui raconte ses histoires. Mais donc, si vous voulez, quand il a commencé les années 50, c'était l'âge d'or du cinéma égyptien. C'est-à-dire qu'il y avait les films qui se faisaient avec les grandes divas, parce qu'il y avait des grandes divas qui étaient devenues divas à l'époque de, voilà, comme Umm Kalsoum, comme Abdelwahab, comme Farid El-Atrache, comme les grandes femmes égyptiennes qui ont joué dans les films, comme Fatin Hamama. D'ailleurs, Fatin Hamama, c'est la grande dame du cinéma égyptien qui a commencé avec lui dans Baba Amin et qui a fait ses 3 premiers films. Donc, il y avait déjà une industrie. Il y avait déjà une industrie. D'ailleurs, mon père, ça c'est à côté, mais c'était, il faisait partie de ça. D'ailleurs, il ne s'entendait pas du tout parce que c'était deux mentalités complètement différentes. Mais mon père était déjà installé avec une société qui s'appelle Orient Film et il faisait des films avec ses grandes divas et il vendait les films en Afrique du Nord et tout ça. Donc lui, il a commencé dans un environnement où il y avait déjà du cinéma. Et lui, il est arrivé avec une nouvelle. Avec un cinéma qui lui appartenait, en fait. Il voulait faire un peu autre chose.
Il arrive dans un cinéma qui est quand même un mélange de culture hollywoodienne et locale, on peut dire.
Bien sûr.
Thierry Jousse.
Oui, moi je ne suis pas spécialiste ni historien du cinéma égyptien, mais j'ai l'impression que c'est un cinéma de studio aussi, quand même, enfin, comme on disait, du cinéma américain, c'est-à-dire un cinéma de genre, avec principalement, d'après ce que j'ai compris, des comédies musicales et des mélodrames, avec aussi des pièces de théâtre filmées. Enfin bon, voilà, un peu tout ce qu'on retrouve dans des industries du cinéma qui étaient assez constituées. Bon, aussi en France, en Italie, enfin bon, avec la particularité du fascisme bien sûr, mais bon, mais en tout cas qui j'ai l'impression, et c'est le cinéma dominant aussi dans le monde arabe, enfin le cinéma égyptien c'est quand même
le seul cinéma,
voilà, c'est là
pas
où ça se passe,
il n'y avait pas de cinéma dans les autres pays arabes, ça c'est un phénomène qui a commencé bien plus tard.
Il y a une industrie qui était très florissante, hein.
Je crois que c'était la deuxième source de revenus du pays, hein.
Et beaucoup de salles de cinéma aussi, peu à peu, c'est-à-dire
beaucoup de salles de cinéma, oui bien sûr, il y avait
des grands réalisateurs comme Henri Barakat.
Il y avait de grands réalisateurs, bien sûr.
Mais j'ai l'impression qu'il a, enfin, bon, ça, j'anticipe peut-être sur la suite, qu'il arrive aussi à un moment où peu à peu ça va muter avec aussi des gens comme Salah Boussaïf, que le cinéma de genre dans lequel il va s'inscrire pour une part, parce que malgré tout il y a quand même pas mal de films de cette début qui sont là, mais peu à peu ça, il va y avoir quelque chose d'autre qui arrive, une expression un peu plus personnelle ou l'influence du néo-réalisme, je ne sais pas exactement, et que du coup ça modifie quand même un peu le cinéma égyptien, comme d'ailleurs dans d'autres pays à la même époque.
Je pense que une période très très importante, c'était 1958 quand il a fait Gare Centrale. Ça, c'était le choc total. Il a choqué tout le monde.
Mais
la famille.
Nous y reviendrons après. Mais à quoi ressemblent ses tout premiers films? Donc les 10 premiers films avant Gare Centrale, puisqu'il y a quand même 10 films avant Gare Centrale.
Non, moi, je pense qu'avec Baba Amin, par exemple, déjà depuis le premier film, c'était très particulier. Il y avait l'image du père qui était un fantôme. Et qui racontait beaucoup de choses. Par exemple, j'ai revu dernièrement Le Fils du Nil. C'est incroyable. Il y a tout dans Ce Fils du Nil. Des choses qu'on revoit après. C'est-à-dire, il y a bien sûr l'homme qui vit dans la campagne avec Fatin Hamama, c'était sa femme. Et après, il décide de tout quitter et il va en ville. Et donc, il a toutes ses expériences en ville. Et il y a un peu de comédie musicale en ville. Donc, c'est vraiment... Quelqu'un disait que les films de Shine, c'est un peu comme un voyage. C'est-à-dire, depuis le début du film jusqu'à... On fait un voyage avec lui. Et on traverse tous ces genres qui sont souvent mélangés
J'avoue que j'ai pas eu l'occasion de revoir les films très très récemment, mais le souvenir que j'en ai des films de cette période que j'ai pu voir justement à l'époque où on avait fait ce numéro spécial, il me semble au moins deux types de films. Il y avait quand même des films plus de commandes comme ceux avec Farid et Latrache, ouais, qui sont des films agréables avec bon voilà, mais qui sont un peu au service de cette de la star
du spectacle
et du spectacle, ouais. Mais que moi enfin on, qui ne donne pas le sentiment non plus d'avoir été fait par-dessus la jambe ou comme des films secondaires. Ils ont été faits avec le même soin que les autres, mais bon voilà, simplement il y a la vedette qui on va dire phagocyte un peu le film, et puis des films comme Les Eaux Noires de
avec
Omar Sharif, qui est donc il me semble la découverte d'Omar Sharif, elle se fait autour de ce film, je cherche un peu les titres parce que
oui,
comme c'était
titres,
un peu voilà,
Ciel d'enfer,
voilà, je cherchais, c'est le mot,
c'est le Ciel d'enfer, voilà. Le premier film qu'il a
tout
fait avec Omar Sharif,
les Eaux Noires, qui va sélection officielle à Cannes.
Et Ciel d'enfer, alors moi j'en garde un très bon souvenir parce que je trouve que c'est un film qui à la fois, me semble-t-il, est tourné en extérieur avec des très bons moments. Il y a un côté un peu film d'aventure policier et en même temps il y a une influence du néo-réalisme. On sent que c'est aussi quelque chose qui n'est pas confiné dans une intrigue théâtrale comme ça. Et puis il y a la découverte de Omar Sharif qui est quand même un moment important, même si après on peut discuter sur la carrière d'Omar Sharif. Bon, c'est pas l'objet de cette nuit.
Il a fait un troisième film avec Omar Sharif, oui, qui était Le Démon du désert.
Ah oui, c'est ça.
Que très peu de gens connaissent. En fait, parce que Shahin ne l'aimait pas, apparemment, parce que c'était une très très mauvaise expérience. Et il n'aimait pas ce film. Et il voulait l'enlever, en fait, de sa filmographie. Mais, enfin, mais on le regarde aujourd'hui autrement. Et on essaye de comprendre quelle était la situation.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on ne peut pas retrancher cette partie de la carrière de Shahin, qui serait avant la naissance d'un génie avec Gare Centrale. Je pense que c'est plutôt le fruit d'une évolution, et de, comme souvent dans le cinéma, de choses un peu aléatoires aussi, et d'une volonté, d'un désir aussi, qui peu à peu s'affirme de plus en plus. Mais encore une fois... Moi, ce que j'aime, une des choses que j'aime dans la carrière de Shahin, comme on peut aimer dans la carrière de certains cinéastes américains, voilà, c'est que les films moins personnels sont pas moins, presque sont pas moins intéressants. Enfin, il y a une œuvre, c'est l'œuvre qui est intéressante autant que tel ou tel film. Et les 10 premières années, elles sont vraiment.
Très riches.
C'est aussi une découverte.
En 1958, donc, Shahin tourne un film qui est devenu un classique du cinéma égyptien et du cinéma, Gare Centrale. Comment expliquer que ce film ait été à sa sortie un échec commercial et qu'il ait suscité une violente hostilité de la part de tout le monde ou presque, Marianne Khoury?
Oui.
Vous dites de la famille même.
Hein. Oui, il m'a dit surtout ta mère, elle était terrible. Non, parce que c'était... On n'a jamais... Je pense que c'était l'année de ma naissance, donc je ne sais pas très bien ce qui s'était passé, mais d'après ce que j'ai appris, qu'il n'y avait pas des sujets aussi arrogants qu'on traitait au cinéma dans ces temps-là. Donc que lui fasse le rôle d'un mendiant, qu'il ait des désirs sexuels, qu'il ait qu'on parle de sexualité, qu'on parle de... Ça, et en plus, on parle de politique, parce qu'il y a le syndicat. Donc c'est mêlé de plein de choses très très importantes, en fait. Donc ça a choqué, en fait. Ça a beaucoup choqué la société.
Il y a une forme de modernité dans le film, en tout cas, ne serait-ce que dans les thématiques dont Marianne parle.
Vous parlez, Thierry Jousse, d'un mélange de néo-réalisme et de narration hollywoodienne.
Oui, il y a quelque chose, il me semble, d'un mélange des deux, qui est en même temps à la Shahin, donc quelque chose qui n'est pas ni l'un ni l'autre. Hein, parce que ce qui est vraiment fort dans le film, c'est qu'il a réussi à inventer cette gare, devient le lieu de tous les désirs, de toutes les circulations, de tous les croisements, et il invente aussi quelque chose qui est peut-être un peu moins présent dans ses premiers films et qui va être très présent dans des films qui vont faire plus tard, c'est-à-dire une narration un peu polyphonique, quoi, où il y a non seulement une intrigue centrale, mais plein de petits détails, de sous-intrigues, de choses qui viennent un peu s'agréger autour. Et c'est ça qui fait le charme de ce film. Et puis il y a en même temps une intensité, effectivement. J'avais dit ça dans un autre contexte, que c'était un peu un film sur le regard aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un film où Shahin se met en scène comme le voyeur, comme quelqu'un qui est, bon, là en l'occurrence effectivement la frustration sexuelle qui va aboutir au crime. Bon, mais c'est aussi un film sur quelqu'un qui regarde, quoi. Et ça, c'est très important, parce que peut-être c'est ça la force de Shahin aussi, c'est la capacité qu'il a à regarder et comment il retranscrit ça dans son cinéma. Je trouve. Et c'est intéressant parce que il y a aussi effectivement cette peinture sociale des petites gens qui sont là dans la gare, des vendeurs de, comment s'appelle, la In Rostom, c'est ça, dans la voilà, l'actrice qui joue une vendeuse de coca comme ça, bon, un peu en plus on est toujours quand même dans des espaces où c'est, on sait pas très bien si c'est autorisé ou clandestin, un peu des deux. Il y a effectivement les naissances un peu du syndicat qui
même
voilà,
de femmes, même le syndicat
voilà, absolument,
syndicat donc, des travailleurs qui sera d'ailleurs fondé après Gare Centrale.
Voilà. Non, mais à part le syndicat des travailleurs, il y avait les femmes qui faisaient aussi un petit mouvement féministe.
C'est assez passionnant de voir se creuser tout ça avec et avec quand même là où la force de Chahine, c'est aussi la précision, c'est-à-dire la rigueur quand même, parce qu'on parle du côté voilà un peu polyphonique, presque désordonné, mais en fait il y a aussi une rigueur quoi. Il y a une économie de moyens, c'est aussi alors ça c'est peut-être la leçon ce qu'il a appris aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas c'est moi je suis toujours frappé par la grande force des découpages chez Chahine, c'est-à-dire sent que ça n'est pas quelqu'un qui improvise beaucoup, aisait beaucoup. Je crois, enfin, en tout cas, voilà, il y avait l'idée. Et ces découpages sont toujours d'une justesse et d'une force plastique en même temps très très grande. Et c'est le cas notamment dans Gare Centrale.
Oui.
Nous venons d'entendre un extrait de Gare Centrale. Gare Centrale, c'est un film que l'on voit, revoit, que l'on peut redécouvrir ou découvrir avec beaucoup d'intérêt. C'est un film passionnant à beaucoup d'égards, et notamment à cause de son comédien principal, Youssef Chahine. Thierry Jousse, comme d'autres réalisateurs, Youssef Chahine pouvait être aussi éblouissant devant la caméra. D'ailleurs, initialement, il se destinait plutôt à une carrière de comédien.
C'est vrai, oui, il est un peu comédien, danseur, un peu tout à la fois. Là aussi, il y a côté homme de spectacle chez lui quand même, hein, qui est important, showman, voilà. Mais il n'a pas fait beaucoup de films dans lesquels il est vraiment au centre du film. Bon, il y a Alexandrie encore et toujours, bien sûr.
C'est une petite apparition dans le sixième jour. Oui.
Et puis il y a ce film que moi je trouve extraordinaire, mais qui est
L'aube d'un jour nouveau.
Alors il y a L'aube d'un jour nouveau, oui, c'est vrai. Mais je pensais plutôt au Caire vu par Youssef Chahine, qui n'est pas un film de fiction, qui est un film qu'il avait fait beaucoup plus tard pour France 2. Où j'étais Antenne 2 peut-être à l'époque, et où il se met en scène comme personnage d'une certaine manière du Caire. Bon, c'est aussi un film extraordinaire, mais oui, c'est vrai, je pense qu'il aurait pu faire une carrière de comédien, mais la pulsion de réalisateur était, me semble-t-il, plus forte. Je voulais revenir juste sur le film, sur un autre angle, enfin sur le récit du film. Moi, j'ai eu l'occasion de présenter ce film il y a quelques années à Bobigny, dans un cinéma Bobigny, avec des classes des lycées, donc de banlieue, des jeunes de banlieue, comme on dit, qui ne connaissaient pas Chahine et qui ne connaissaient évidemment pas Gare Centrale. Et alors, moi, je me souviens très bien, j'avais été frappé par... Ils ont été très sensibles au film, parce que le thème du film, c'est ce truc sur la frustration, le désir, le voyeurisme, tout ça, et même ce côté voilà, social du film, leur a beaucoup parlé, et je me suis dit, quand même, ce film, qui date de 1958, c'était il y a... Je parle de ça, ça devait être il y a...
60 ans.
Oui, c'est ça. Moi, la présentation, ça devait être en 2010 ou quelque chose comme ça, donc il y a quelques années, et ben voilà, ça avait gardé toute sa force et toute sa fraîcheur auprès de ces... Et le jeu, bon, là je raccorde avec le Chahine acteur, le jeu de Chahine comme acteur, je trouve aussi à la fois quelque chose de très expressif et en même temps il est extrêmement, il y a quelque chose de très proche dans sa façon de jouer, on est avec lui, enfin il arrive aussi à rendre ce personnage qui est quand même pas facile.
Très attachant,
Il arrive à le rendre attachant, ce qui est aussi une force de cinéaste pour moi.
Ouais, et ce qui est très paradoxal aussi avec Gare Centrale, c'est-à-dire quand les gens ont vu la copie restaurée sur grand écran, ils ont vu des choses qu'ils ne voyaient pas sur le petit écran. Et justement, les gens disaient peut-être que ça. On se disait que peut-être ça ne passera jamais la censure aujourd'hui. C'est-à-dire un film comme ça aujourd'hui ne passerait pas la censure.
Chahine, les acteurs, les actrices dans un cinéma qui faisait la part belle au rôle féminin étaient le centre de son travail. Il y a une omniprésence des visages et des corps dans ses films et de la parole aussi. On dit qu'il avait avec les comédiens une relation très forte, très exclusive, Marianne Coury.
Oui, c'est sûr, parce que comme je vous dis, c'était pas sans, le cinéma et la vie ne sont pas dissociables. C'est-à-dire il avait des rapports très très forts avec les comédiens, parce que pour lui, c'était eux. D'ailleurs, j'avais entendu une expression qu'il avait dit une fois, que les comédiens, c'est eux qui... En fait, ils prennent les paroles qui ont été écrites sur papier et puis ils donnent une émotion. C'est-à-dire que c'est eux qui portent l'émotion. Donc pour lui, c'était extrêmement important, les comédiens. Donc il avait des rapports très très forts avec les comédiens.
Il y avait presque une troupe d'ailleurs autour de lui. Des comédiens récurrents.
Il y avait par exemple comme Mahmoud El-Meleghi, par exemple, qui a joué le rôle de son père. Un comédien formidable. Et c'est drôle comment les comédiens avec lui ne sont pas les mêmes comédiens avec les autres réalisateurs. Parce qu'il... Il y a quelque chose de nouveau, très chahinien dans son rapport avec les comédiens. Donc, même avec les jeunes, il osait prendre des jeunes qui n'avaient jamais joué. Quand il voyait en eux quelque chose de très fort, il osait leur donner des rôles très importants.
Je pense que sa formation d'acteur, ou le fait qu'il ait eu cette vocation d'acteur également, est pour pas mal de choses. C'est-à-dire que on sait très bien, il y a un certain nombre de cinéastes acteurs qui ont ce rapport évidemment beaucoup plus direct avec les comédiens. Et il me semble que c'est le cas dans ses films. Et puis une attention au second rôle aussi, enfin non seulement aux comédiens centraux, mais aussi à tous ceux qui peuplent l'écran. Et l'écran chez Chahine, il est souvent très peuplé. Donc du coup, il y a du monde et on sent qu'il a à cœur de faire que chacun ait sa place, que tout soit animé dans le sens vivant du terme.
Chahine avait très très mal vécu l'échec public de Gare Centrale, qui l'aurait même plongé dans un long état de dépression. C'était pour lui très important de faire des films qui touchent un large public, un public populaire. « Je n'ai pas le droit de faire des films que les gens ne comprennent pas ou n'admettent pas », disait-il. Ce souci de tenter d'être entendu du plus grand nombre, ce devoir au-delà de ses propres inquiétudes de carrière, c'était quoi? La conscience d'appartenir à un pays, à un peuple, à un monde que l'on ne doit pas trahir, Marianne Coury?
Là, c'est une question un peu difficile pour moi. J'essaye de... Peut-être que Thierry pourra prendre la parole.
Ce qu'il disait, l'Égypte a besoin de moi, j'éprouve ce sentiment d'appartenir aux autres, c'est très important.
Oui, c'est pour ça. Et peut-être que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il essayait tout le temps de toucher à des genres qui sont très différents. C'est-à-dire, si on voit un peu les films qu'il a fait après Gare Centrale, donc il a fait Gamila, qui est le film algérien, le film avec l'Algérie. Il a fait Entre tes mains, il a fait L'appel des amants, il a fait...
Pour lui, c'était les films d'une période noire, hein. Enfin, oui, période à part Jamila l'Algérienne.
Mais après, il y a eu Saladin. Il y a eu Saladin, et ça, c'est
Saladin qui n'était pas initialement un film qu'il devait réaliser.
Non, c'était un autre réalisateur qui était...
Ezzedine Zulfikar,
qui n'allait pas bien, et il l'a appelé, il lui a dit « Je veux que ce soit toi qui fasses le film, et non pas mon frère ». Et Chahine l'a dit dans plusieurs interviews, en fait. Et donc, bien sûr que Saladin, c'était un énorme chantier avec la grande productrice
Assia.
Et apparemment, c'est jusqu'à aujourd'hui le plus grand budget du cinéma égyptien. C'est-à-dire quand les films se faisaient à 5 000 livres ou 2 000 livres, ce film-là a été fait à 20 000 livres à l'époque. Et bien sûr, il y avait l'armée, il y avait tous les soldats, il avait été aidé, en fait, pour faire ce film.
Chahine disait d'ailleurs que sa gloire était venue de ce film Saladin, qui était déjà donc son 17e long métrage. De quel rôle est-il alors investi en Égypte? Que lui apporte cette gloire dans son travail?
Comme a dit Thierry, Chahine, c'est-à-dire, il était plus connu en tant que Chahine que ses films, en fait. Les gens connaissaient mieux le visage de Chahine que ses films, mais bien sûr que c'est devenu des films cultes, comme Saladin, comme Gare Centrale, comme beaucoup d'autres films. Lui, il se sentait appartenir à l'Égypte, en fait. Il se sentait très égyptien, malgré le fait qu'il aurait pu rester aux États-Unis, il aurait pu rester en France, il aurait pu...
Ce film Saladin, avec le brio, la maîtrise avec lesquelles il avait dirigé cette mise en scène, aurait pu lui permettre d'être un réalisateur international.
Oui, bien sûr, mais lui, ça a été un choix de rester en Égypte, de travailler en Égypte, et de, à partir de l'Égypte. Oui, faire des coproductions, c'est le seul qui a su faire des coproductions. Il a travaillé avec... l'Irak, il a travaillé avec l'Union soviétique, la Russie, il a travaillé avec la France, bien sûr, mais toujours à partir de l'Égypte. C'est-à-dire, il n'allait pas travailler chez eux.
Il disait qu'il ne pouvait pas, il n'aurait pas pu.
Il aimait tourner en Égypte.
Il y a une chose qui est assez importante aussi, je trouve, c'est dans cette période-là, mais dans d'autres aussi, c'est qu'il n'y a pas de, au fond, il n'y a pas de frontière aussi nette que, par exemple, en France, entre ce qu'on appelle le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Bon, qui est une distinction, on va dire, qui arrive à peu près au moment de la Nouvelle Vague, où tout d'un coup, il y a, même si certains films de la Nouvelle Vague ont fait des grands succès, mais il y a quand même un peu une scission, on pourrait dire, qui n'existait pas totalement avant. Bon, chez Chahine, cette scission, elle se fait peut-être aussi un peu à l'intérieur de son œuvre, enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Enfin, quand même, j'ai l'impression que il y a un cinéma complet chez Chahine qui intègre le cinéma populaire dans des choses qui sont un peu plus entre guillemets pointues et réciproquement. Enfin, en tout cas, que la frontière est pas nette, que ça circule un peu entre les deux et qu'il y a un désir, en tout cas, si ce n'est de faire des films ultra populaires, où il y a pas de démagogie chez lui, il faut le dire. Mais enfin, il y a une volonté d'être vu, d'être, même si c'était pas forcément le cas pour tous les films. Enfin, en tout cas, voilà, il y a pas cette distinction qui est devenue aujourd'hui extrêmement forte et ça fait beaucoup de bien du coup quand on voit des films de Chahine, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas déterminé par cette question-là en particulier. Pour lui, le cinéma, c'est un tout. Et je trouve ça presque rafraîchissant pour nous aujourd'hui de voir des films de Chahine aussi pour cette raison-là, quoi.
Chahine est un cinéaste qui est donc apparu avec la République. Il a toujours avoué une sensibilité socialiste, une sensibilité qu'on retrouve tout au long de sa filmographie. S'il disait ne pas aimer les militaires, il reconnaissait à Nasser une probité que d'autres n'ont pas eue. Et il avait manifestement une certaine admiration et de la sympathie pour lui. Comment a-t-il vécu comme cinéaste les années du nassérisme et les idées qui avaient cours alors? Socialisme, nationalisme, panarabisme, ouais. Marianne Khoury.
Il a eu une période brève au Liban, en fait. Il a dû quitter à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de... Il n'arrivait plus à travailler en
65.
Ouais. Et donc, il est parti au Liban et il a travaillé, il a fait le vendeur de bagues avec Férouz. Donc, voilà. Mais il n'a pas pu rester longtemps au Liban. Il est revenu tout de suite après. Et il a commencé une nouvelle période qui était très, très intéressante, en fait.
Marianne Khoury, Thierry Jousse, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit, Youssef Chahine. Dans un instant, Nasser, la révolution, l'amour et le cinéma, le troisième temps de La voix nue de Youssef Chahine par Toufik Hakem en 2004. Puis Dalida, interprète du sixième jour de Youssef Chahine au micro de Serge Danet dans Microfilm en 1986. Alexandrie encore et toujours, le quatrième temps de La voix nue de Youssef Chahine par Toufik Hakem en 2004. Et puis, Youssef Chahine pour son film Le sixième jour dans Microfilm de Serge Danet en 1986. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour la deuxième partie de notre entretien. À tout à l'heure.